Bonjour.
Bonjour à tous. Heureux de vous accueillir à la médiathèque José Cabanis pour le Marathon des mots et heureux d'accueillir Véronique Olmy et Karine Thuil, retrouver Karine Thuil que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans une librairie. L'an dernier, j'avais eu le privilège d'interviewer Édouard Louis et Tash O. Si je parle de ceci, c'est parce que le lien était un lien amical, pas simplement littéraire, que nous avions souhaité, via le Marathon des mots, bien évidemment, explorer. Eh bien, il en va de même aujourd'hui, avec ce lien amical, cette complicité à la fois littéraire et, je me répète, amicale, qu'entretiennent Véronique Olmy et Karine Thuil. Je vais vous les présenter en quelques mots. Véronique est née à Nice, elle est très jeune, elle a été attirée par le théâtre, a suivi des études d'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet, pardon. Elle est devenue assistante à la mise en scène pour Gabriel Garand et Jean-Louis Bourdon, puis s'est lancée dans ses premières adaptations. Elle a été remarquée pour sa pièce « Le Passage » créée au Théâtre du Rond-Point, une pièce qui a obtenu le prix de la Fondation de la Poste. Côté roman, d'abord il y a eu une nouvelle publiée en 98 sous le nom de Privé. Et ensuite, vous me dites si je dis des bêtises hein, si j'oublie des choses importantes. Vous allez davantage vous consacrer à l'écriture de romans. Le premier s'intitulant « Bord de mer » en 2001, prix Alain Fournier. Depuis, 14 autres livres, dont « Bakita ». Donc, que vous avez forcément lu, qui a connu un grand succès, qui a décroché le prix du roman FNAC, concouru entre autres pour le prix Goncourt des lycéens et le prix Fémina. Et alors, le tout dernier s'intitule « Le gosse ». Il est possible que nous en parlions, mais ce n'est pas forcément nécessaire, puisque, encore une fois, le but de cette rencontre, c'est d'explorer les liens que vous entretenez amicalement et littérairement. Quant à Karine Thuil, qui est, elle, diplômée en droit, hein, maîtrise du droit des affaires, DEA, du droit de la communication, vous avez écrit 12 romans traduits en de multiples langues, le premier s'intitulant « Pour le pire » en 2000 chez Plon. Et puis, on peut, là aussi, comme hier, je fais un grand bond, je vais aux choses humaines, votre 11e roman, je pourrais citer aussi « L'invention de nos vies » ou encore « L'insouciance ». Si je m'arrête sur les choses humaines, c'est parce que vous avez obtenu grâce à lui le prix Interallié 2019 et le Goncourt des lycéens. Vous avez été adapté au cinéma par Yvan Attal. Vous avez reçu le prix Quesnot Art et Littérature pour la sortie de l'édition italienne des choses humaines, justement. Et votre tout dernier livre s'intitule « La décision, le voici ». Alors, la toute première question, elle est d'une banalité affligeante, mais c'est quelles sont les circonstances de votre rencontre ?
Ben, si, la réponse va être très banale aussi. On s'est rencontrés chez notre éditeur.
Voilà. Alors, mais vous avez rencontré d'autres personnes chez votre éditeur.
Oui, on a rencontré d'autres personnes. On est arrivés en fait de maisons d'édition différentes chacune et on est rentrés chez Grasset au même moment. Et donc on était à la fois novices dans cette maison d'édition et en même temps, on avait quand même un bagage déjà littéraire derrière nous. Et Karine, je me souviens, que comme moi je ne reconnais pas les gens, c'est donc un handicap réel et constant. Par exemple, quand on prenait ce qu'on appelle les trains des auteurs pour aller à Nancy, c'est des trains où il n'y a que des auteurs. C'est pire que les trains fantômes. Et à chaque fois qu'on croisait quelqu'un sur le quai, je lui disais « C'est qui ?» Et elle devait m'expliquer que c'est... Et après, je le renvoyais à la personne, je disais « C'est qui ?» Et voilà. Et donc, elle a commencé par me soutenir. Et puis
j'étais
ensuite...
son attachée de presse au départ, en fait. Ouais. Ça c'est après.
Et ensuite, elle a organisé un incroyable voyage d'auteurs en Israël où on rencontrait et les auteurs israéliens et les auteurs palestiniens. Mais là, ça avait été plus compliqué, mais on avait rencontré des gens qui militaient, qui étaient dans le mouvement pour la paix. Et c'était un voyage absolument inimaginable que tu avais organisé avec
Le Monde, avec le journal Le Monde et avec Medbridge, qui était une association de parlementaires français.
Avec David Funkinos, qui allait sortir son premier livre, Michel Fitoussi, c'était vraiment Florian Zeller.
Voilà. Du beau monde.
Et ça a quand même scellé l'amitié. Parce qu'après, je me souviens, dans l'avion du retour, tu t'es assise à côté de moi, tu m'as dit « On pourrait prendre un café ?» Et après qu'elle m'ait offert tout ça, qui était un voyage inimaginable, j'ai répondu oui. Et on est devenus amis.
Oui, j'avais complètement oublié les circonstances de notre rencontre, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au cours de ce voyage, on avait rencontré beaucoup d'écrivains. Et notamment, on avait rencontré Aleph Bet Yehoshua, qui est décédé il y a quelques jours, qui était un très très grand écrivain israélien et puis très engagé en faveur du mouvement pour la paix. Et on avait rencontré David Grossman, à l'époque où il venait de perdre son fils, en fait. Et on avait parlé de la perte, de littérature. Enfin, c'était une succession de rencontres littéraires, mais très profondes, parce qu'il était aussi question, évidemment, de politique. Et tu vois, tu m'en parles, et c'est vrai que le fait que cette amitié naisse aussi de circonstances, j'allais dire, et de lieux, d'espaces littéraires, c'est pas anodin, en fait.
Est-ce que vous vous étiez lu avant de vous connaître ?
Non, pas moi.
Et dans ces cas-là, est-ce que ça file pas les jetons quand on aime quelqu'un de se dire « et si je n'aimais pas ce qu'elle écrit ?»
Mais je pense que... Alors moi, j'ai le cas d'une amitié où j'étais amie avec la personne avant qu'elle écrive des romans. Elle était dramaturge et scénariste. Elle écrit des romans que je trouvais très mauvais. Je n'ai effectivement pas pu continuer le lien parce qu'on ne voyait pas le métier. C'est pas une question de jugement. Hein, elle écrit pas bien. C'est qu'on ne voyait, on n'avait pas la même vision du métier. Et c'est ça qui est essentiel. C'est très rare de trouver quelqu'un avec qui on peut partager et l'intime. Et puis, les questions sur l'écriture en train de se faire. Et ça, c'est très, très rare.
Ça, oui.
Après, il y a la question de la sensibilité. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, moi, dans l'œuvre de Véronique, aussi sa sensibilité de personne. Et d'ailleurs, elle rigole, et je rigole souvent sur ce sujet avec ma fille, parce que des fois, elle me parle et je lui dis « Attends, je vais noter cette phrase parce qu'elle me fait réfléchir ta phrase. » Et j'ai comme ça une petite succession de phrases prononcées par Véronique. Et c'est vrai que, bon, la rencontre avec une œuvre, c'est aussi la rencontre avec une personne. Alors, ça arrive parfois que vous aimiez l'œuvre et vous n'aimez pas la personne. Mais l'inverse est aussi, heureusement.
Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le métier d'écrivain, c'est spécial. Par exemple, deux artisans ne sont pas obligés de s'entendre. Mais écrivain, c'est un métier qu'on exerce avec tout notre être, avec effectivement notre sensibilité, avec notre parcours, notre histoire. C'est pas quelque chose qui est... On pose pas le métier à la porte quand... Enfin, en plus, bon, on écrit chez nous, mais... Ou disons, quand on sort de chez nous, on laisse pas les manuscrits ou l'idée du roman à la porte. On le porte en nous tout le temps. Donc c'est vrai que c'est cet alliage qui fait que l'amitié entre deux auteurs, elle peut pas faire l'impasse d'être sur la même longueur d'onde humaine et artistique. Ça serait trop compliqué.
Et il faut quand même rappeler que c'est très rare.
C'est ce que j'allais souligner.
Voilà. Moi, on me demande souvent tu es amie avec quels auteurs, et en fait, il y en a très peu.
Vous sauriez expliquer pourquoi ?
Je suis amie aussi notamment avec David Fonkinos. On est très proches depuis longtemps. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais dont je ne suis pas si proche. Comment je peux l'expliquer ?
Oui, que les amitiés entre écrivains soient rares.
Il faut parce qu'en fait, il faut pas oublier que il y a un contexte particulier quand même dans le milieu éditorial. Il y a parfois un climat très particulier. À la fois, c'est un mélange de narcissisme, la publication. C'est un moment où on veut être dans la lumière, on voudrait voir son travail concentré. En France, il y a cette période de la rentrée littéraire en septembre, qui est, quoi qu'on en dise, un moment extrêmement compétitif, puisque les auteurs, leurs livres vont être jugés, vont être placés sur des listes. C'est quand même un climat très particulier. Donc, ça crée quand même aussi des tensions. Et puis, il y a la question aussi de la médiatisation. Quand vous êtes un auteur très médiatisé, quand un de vos amis l'est moins, c'est très compliqué. Ça peut créer aussi des situations particulières. Donc, il faut être vraiment dans une relation de très grande confiance, de proximité quasi fraternelle avec la personne. Et donc, c'est quand même très rare, puisqu'il faut qu'il y ait... Et évidemment une admiration pour le travail de l'autre, mais en plus une intimité profonde qui fait que quand l'autre vit quelque chose de fort, vous êtes heureux pour lui. Moi, je me souviens quand Véronique, moi, elle a eu beaucoup de succès à chacun de ses livres, mais par exemple, Bakita, parce que je me souviens, je l'avais lu 13 ans en amont, et j'avais dit, écoute, je suis bouleversée par ce texte, c'est un très, très grand livre, je pense que tu mérites le Goncourt, vraiment, c'est... Et voilà, c'est des moments de grâce, de découverte d'un texte, de quelqu'un, en plus, avec lesquels vous avez une intimité, et c'est des moments... voilà,
et c'est donc chez elle que je suis allée pleurer quand j'ai vraiment tout raté. Le Goncourt des lycéens et le Fémina, là, c'était c'était le Goncourt des lycéens en dernier, le truc en trop. Et c'est vrai que je savais pas chez qui aller et c'est chez toi que je suis allée. Tu m'avais acheté des brioches, des tas de choses. Et parce qu'il y avait qu'elle qui pouvait comprendre, parce qu'elle l'avait vécu. Elle n'avait pas encore eu le Goncourt des lycéens et l'Interallié. Elle avait été comme moi sur les listes. Elle avait échoué dans les derniers carrés. Et vous ne pouvez pas expliquer ce chagrin à quelqu'un qui n'est pas passé par là, parce que ça peut paraître, tu peux déjà être contente d'avoir été là, ou vraiment, quand on voit la misère dans le monde, tu ne peux pas pleurer pour ça. Il y a mille excuses qui font que cette peine-là, elle ne peut être compréhensible que par quelqu'un de proche dans tous les sens du terme.
Vous pouvez nous l'expliquer malgré tout. Moi, il me semble que j'aurais écrit un livre comme Bakita, mais l'accueil qu'il a reçu. Et vous pourriez avoir la certitude que votre œuvre est de qualité et ne dépend pas de la reconnaissance de jurés ou de...
Il faut comprendre, c'est ce que dit Karine, c'est qu'à la rentrée littéraire, même si quand on fait de rentrée littéraire, à chaque fois on dit « Non, cette fois-ci, je vais être hyper détendue. Oh là, je le sens !» Non, non, j'ai pris vachement de recul, en fait. Et c'est pas possible parce que vous n'êtes pas tout seul, parce que vous avez l'éditeur, vous avez l'attaché de presse. Alors c'est bien, hein, ça veut dire qu'ils comptent sur vous, mais vous avez toute une équipe, toute la maison d'édition derrière. Et en fait, ils misent sur des chevaux. Même s'ils sont sympathiques, ces gens-là, ils misent. Et c'est le cheval qui est en train de sortir, sur lequel ils vont se focaliser. Et quand c'est vous, vous courez. Et même si vous n'aviez pas forcément envie de courir aussi vite, vous y êtes. Et puis en même temps, vous n'avez pas trop le temps de penser, de réaliser que ça marche bien. Vous voyez que vous faites des interviews, des trucs, des déplacements tout le temps, que vous êtes tout le temps avec votre valise et vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et puis, vous arrivez, vous êtes quand même rincé, vous voyez ? Vous avez donné beaucoup, et ce chagrin-là, il est fait de... C'est, bien sûr, si on est à la rentrée littéraire, c'est qu'on veut un prix. C'est-à-dire, sans ça, on ne va pas à un bal où on ne veut pas danser. Donc, on n'est pas victime de quelque chose. Mais cette violence intrinsèque, il faut la vivre de l'intérieur pour savoir à quel point elle peut déstabiliser votre âme, vraiment.
Et puis, il faut rappeler le contexte. Quand on sort un livre, il y a aussi la réception critique. Donc, vous êtes quand même très fragilisé. D'où d'ailleurs aussi l'importance de l'amitié avec un écrivain, parce qu'il n'y a qu'un écrivain qui peut comprendre. Moi, je sais que, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des mauvais papiers. Je suis très ébranlée, je suis très affectée. Et mes amis, par exemple, me disent « Oui, tu as eu un mauvais papier, ça va, enfin, c'est pas grave. » Il passe à autre chose, mais un écrivain peut comprendre. Il sait ce que ça signifie, la douleur que ça représente, le fait que ce soit public. Tout ça, c'est quand même très particulier. Moi, je dis souvent à mes amis qui ne sont pas écrivains, je dis, ben, toi, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans ton travail, bon, ben, ça va se savoir au sein de ta boîte. Mais nous, quand c'est public, quand on a un mauvais papier, je sais pas, dans le Nouvel Obs, et que ça reste en plus sur les sites internet, c'est quand même assez douloureux, parce qu'en plus, on le prend personnellement. On voudrait que... Moi, je me souviens d'une émission littéraire il y a quelques années, j'arrive sur le plateau et le journaliste me pointe du doigt et il dit face caméra, vous, je ne vous aime pas. Et moi, j'étais totalement désarçonnée. Je lui dis, mais vous avez le droit de ne pas aimer mon livre, mais moi, vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas me dire cette phrase.
Terrible.
Et j'ai fait bonne figure pendant l'émission, mais je vous assure que pendant 15 jours, 3 semaines, et encore aujourd'hui, j'ai été marquée par cette émission, j'ai été très affectée parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement violent et injuste de comme ça, publiquement. Et puis en plus, on m'en a parlé. Enfin, donc voilà, c'est vrai que l'amitié avec un écrivain, c'est aussi parler du travail au quotidien, mais parler aussi des humiliations qui naissent de ce travail et dont on ne parle jamais, parce que quand on parle des écrivains, on parle des livres, on parle du contenu, on parle de succès, on parle de la réussite, mais on ne parle pas de aussi des moments de
C'est très violent, on parle jamais de la violence. Et moi, j'avais fait une émission, ça balance à Paris, ça s'appelait. Plus personne ne voulait y aller, alors ils avaient dit à l'attaché de presse, non, mais les critiques sont bonnes, ils ont aimé. Et on ne comprenait pas, parce que quand on était dans le taxi pour aller à l'émission avec l'attaché de presse, 3 ou 4 fois, on a eu un appel, surtout vous rentrez par la porte de derrière, surtout vous rentrez pas, vous allez dans des loges spéciales et tout. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et en fait... on vous maquille, tout ça, on vous microte, et puis vous attendez devant un... On vous place devant un miroir, vous devez vous regarder devant un miroir à 3 faces. Pourquoi ? Et puis, il y a quelqu'un qui vous filme de dos, et là, vous entendez qu'on vous assassine, et la personne veut voir ce que ça vous fait. Et il y a une la caméra vous suit, et quand vous allez pour rentrer, juste pour dans la fosse au lion, on vous filme encore pour voir si vous pleurez par hasard. Vous faites l'émission en vous tenant droite, voilà, chacun a ses petits mantras, ses trucs. Quand vous sortez de l'émission, c'est pas fini, on vous fait dans une sorte de boîte à questions, on vous filme en disant « Alors, ça fait quoi ? Ils vous ont vraiment détesté, ils vous ont descendu, vous pouvez survivre à ça ?» Alors vous survivez parce qu'avec le petit cœur, vous dites, on va l'entendre dans le micro. Et puis vous rentrez chez vous, vous pleurez toute la soirée, c'est tout. Mais les gens vont vous dire, eh, je t'ai vu à la télé, t'es contente. Et cette violence qu'on vit, parce qu'effectivement, c'est public, parce qu'effectivement, c'est notre nom. Et c'est nous qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand on... enfin, c'est le plus beau métier du monde, vraiment, je le pense sincèrement. Mais il y a une grande violence.
Mais il est vrai que c'est la première fois, honnêtement, ça fait quelques années que j'interviewe des auteurs, que j'entends parler de ça.
Ben on n'en parle jamais.
Ouais, ouais.
Alors que nous, on en parle très fréquemment, voire tout le temps.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez découvert Bakita en amont. Donc j'en déduis que vous lisez sur, alors soit sur épreuve, soit encore mieux sur manuscrit.
En fait, on s'était donné sur épreuve.
Non, mais même un matin, je t'avais donné rendez-vous au Café Français.
Oui. Tu m'avais fait lire le texte.
Un matin, et puis je t'avais dit, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle pour l'instant Bakita, mais je crois qu'il faut que je recommence. Est-ce que je peux changer de narrateur ? Tu te souviens ?
Oui.
Ouais. Et tu m'avais dit.
On en avait parlé.
Oui, change de narrateur, ce que j'avais fait.
Mais souvent, on parle de nos livres, mais moi, je préfère lui faire lire une fois qu'il est.
Qui est terminé.
Oui, parce que j'ai peur. En fait, je pense qu'il faut. Pour entendre la critique sur manuscrit, moi, il y a très peu de personnes qui peuvent me dire frontalement les choses, voire me dire c'est vraiment nul, tu peux pas publier ça, donc c'est ma fille, mon mari. Et je veux pas altérer notre amitié, donc j'ai toujours peur de donner. Je voudrais pas être confrontée à cette phase avec Véronique. Je cherche quand même à préserver cet espace. Et après, moi, j'ai un peu un accord tacite avec comme ça quelques amis écrivains. C'est si le livre, une fois publié, ne nous plaît pas, bon, ben, on évite, on ment pas, mais on va pas ni dire du bien ni dire
parce
du mal.
C'est trop douloureux,
on essaye d'éluder un peu. Heureusement, ça m'est jamais arrivé de pas aimer son livre, de pas aimer ses livres, mais sinon, on ne dit rien. Voilà.
Oui, mais ça nous est pas arrivé en fait, ni à l'une ni à l'autre, donc ça va.
Et est-ce que vous pensez l'une à l'autre? Quand vous écrivez,
on se parle tellement, on ne peut pas ne pas penser l'une à l'autre. On se parle tous les jours, plusieurs fois par jour, on s'envoie des SMS tout le temps. C'est presque un work in progress, je dirais. Mais d'ailleurs, là, dans l'avion, en venant, c'était drôle parce que je t'ai parlé de mon sujet, mais c'était tellement brouillon que tu m'as posé une question qui m'a fait rire parce que j'ai vu que je m'étais emmêlé les pinceaux, quoi. Mais oui, on débriefe, on s'en parle,
Qu'est-ce que vous voulez dire, emmêler les pinceaux dans votre histoire ?
Mais la façon dont je le présentais, mais ça me fait souvent ça quand je commence un sujet, ça part dans tous les sens. Je veux tout, donc je mélange tout et par une question comme ça, que ce soit Karine ou notre agent qu'on a en commun, vous vous dites ah oui, ça va pas aller en fait. Mais on a éclaté de rire. Enfin voilà. Mais c'est non, on en parle beaucoup.
Puis c'est important.
Toi, tu es plus
secrète.
Cachotière.
Oui.
Hein.
Ouais,
parce qu'en fait, moi, le livre apparaît au cours de l'écriture. Donc, si j'en parle, très souvent, en fait, c'est un autre livre. Je ne décris pas le livre réel. Le livre réel, c'est le livre que je suis en train d'écrire. Et ça, c'est du jour au lendemain, ça évolue. Après, pour la décision, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour d'autres raisons, c'est parce que comme je travaillais. Avec des juges d'instruction antiterroristes, j'avais toujours peur que que ça s'arrête, en fait, que leur confiance... Oui. Donc, je ne parlais pas du tout du sujet. Très peu. Toi, tu savais de quoi ça parlait, mais même, je n'en ai pas beaucoup parlé.
Mais moi, ce que je vois, c'est que tu vas au tribunal, c'est que tu rencontres des juges. Voilà, tu mets vraiment les mains dans le cambouis. Donc, ça, je suis ça. Mais après, je ne sais pas ce qui se passe. Même le titre du livre, tu ne veux pas me le dire.
C'est vrai que je suis...
Elle me dit que son nom et son prénom.
Non, mais c'est vrai que je ne parle pas trop du travail d'une manière générale, d'ailleurs, même à mes proches, même à mon éditrice, à chaque fois, elle me dit, mais c'est pas possible, tu ne veux même pas me donner 50 pages à lire. Je lui dis, non, tu auras le livre à la fin, tu sauras... Et je lui donne un jour le manuscrit terminé avec le titre, tout. Après, il y a des modifications, mais voilà. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est des échanges sur les doutes, en fait, aussi, parce qu'on oublie que vous lisez le livre imprimé, mais vous n'imaginez pas les séances de torture, de doutes, penser que c'est nul. Et puis, à qui vous pouvez...
Mais vous prenez du plaisir, rassurez-moi. Voilà.
Oui, bien sûr. Mais à qui vous pouvez décemment confier vraiment vos doutes les plus profonds? Très peu de personnes.
Puisque vous nous tenez le langage de la sincérité, de l'honnêteté, on va aborder un domaine que, justement, on n'aborde jamais. Est-ce que vous vous aiguillez, est-ce que vous aidez sur le plan purement, alors très prosaïque, sur le plan matériel, sur le pourcentage des droits d'auteur, sur la personnalité de tel ou tel éditeur, sur les pièges de la maison d'édition, ou est-ce que ça fait partie de vos conversations?
Moi, je me souviens, avant d'avoir un agent, où je t'avais appelé un soir en disant « j'ai reçu le contrat, c'est pas beaucoup, qu'est-ce que je fais, est-ce que je signe ?» Et tu m'avais dit « c'est toujours mieux dans ta poche que dans celle de l'éditeur ». J'avais dit « t'as raison ». Et ça avait été accepté, ça m'avait quand même sauvé la mise. Moi, j'étais seule avec les mômes. Et c'est vrai que, voilà, où des fois, je me souviens, j'avais tellement peur, il n'y avait pas encore trop les banques en ligne, prosaïque pour prosaïque. J'avais tellement d'angoisse d'arriver à la banque et de voir à combien j'étais descendue. Je t'appelais sur le chemin pour me tenir. Je ne sais pas si tu te souviens, moi je m'en souviens. Je t'appelais parce qu'il fallait que je parle à quelqu'un, j'étais trop angoissée.
Mais en fait, on oublie que dans la chaîne de l'édition, c'est l'auteur qui vit le moins de son travail. Puisque à ses débuts, il a environ 8-10%. Bon, après, au maximum, il aura 14-16, mais vraiment au grand maximum, hein, c'est pour les gros vendeurs. Donc, en fait, réfléchissez sur... C'est lui qui fournit le travail, c'est lui qui écrit le livre, et après, il aura 10%. Bon, vous enlevez les charges, il reste pas... Finalement, c'est celui qui vit le moins bien de son travail. C'est...
Pourquoi ça se sait pas davantage? Parce que c'est impur pour un pur esprit de parler
d'argent,
c'est
ça? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que... Moi, je suis toujours étonnée quand les gens... Par exemple, moi, je vous donne un exemple très concret. J'ai changé de maison d'édition. Je suis passée de Grasset à Gallimard. Et quand j'ai changé de maison, il y a eu des articles, pas très nombreux, mais qui disaient, oui, elle a fait un transfert, c'est pour l'argent. D'abord, donc c'est très choquant, parce que d'abord, c'était faux. J'étais pas partie pour ces raisons-là. Et si c'était vrai, j'ai droit de vivre de mon travail. Moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, j'ai une famille, j'ai droit de vivre de mon travail. Pourquoi ça serait indécent qu'un auteur vive de son travail alors qu'une autre profession, ce n'est pas le cas? Moi, par exemple, on a très souvent cette discussion avec Véronique, par exemple, on demande très souvent des travaux non rémunérés aux auteurs. Et parfois, quand on demande... À la fin, mais en fait, je n'ai pas été rémunérée pour ce travail que j'ai fourni. Alors, on me dit, oh, mais ce n'est pas des grosses sommes. Et je dis, mais oui, mais même si c'est 50 euros ou 60
euros. Non, c'est
quand
même pas. Enfin, moi, j'en ai fait des gros cette année, non payé quand même. Hein. Voilà. On en fait toujours.
C'est incroyable.
Et, non, mais souvent, on vous paye avec 3 mois de retard. Et je dis, bah oui, mais vous êtes salarié, vous avez votre salaire à la fin du. Pourquoi, quand c'est un auteur, il faut qu'il quémande, qu'il insiste? Moi, ça m'arrive de devoir demander pour un travail que j'ai fourni, qui m'a demandé beaucoup de temps. Je sais pas, c'est l'auteur, c'est toujours... Il y a ce rapport à l'argent de l'auteur qui doit travailler pour l'art et qui ne doit pas en vivre. Mais oui, mais les autres en vivent, donc c'est quand même assez... c'est une forme d'injustice, ce rapport. Et même quand on a un agent, c'est pas encore entré complètement dans les mœurs en France. Et or, en fait, l'agent ne fait que défendre nos intérêts, notre travail. Il n'est pas là, c'est pas un grippe-sous... Au contraire.
Vous parliez de valeurs au tout début de notre entretien en disant voilà, que des liens amicaux étaient possibles dès lors qu'on partageait les mêmes valeurs. Je crois que c'est ce mot que vous avez employé. Vous pourriez les définir, ces valeurs littéraires qui vous animent et qui vous rassemblent?
Ben, je crois déjà il y a l'amour de la littérature qu'on partage aussi. On n'a pas forcément les mêmes mythologies dans la littérature, même si on peut les partager. Mais c'est, je crois que c'est une façon, c'est un respect vis-à-vis. Quand je dis que c'est le plus beau métier du monde, c'est aussi parce que c'est un travail qui fait qu'on peut toujours apprendre, toujours progresser, toujours s'améliorer, et que c'est infini. Mais cet infini-là, il demande aussi une conscience déjà de ce que c'est, et puis un grand respect. On sait qu'on a des maîtres, on sait qu'il y a des génies en littérature, on sait où est notre place aussi, mais c'est une façon de toujours tenter de tendre vers un danger, déjà, de changer de sujet, avoir peur, tenter des choses, et aussi être profondément engagé, corps et âme, et sincère.
Oui, c'est conserver aussi une forme d'intégrité intellectuelle, c'est-à-dire ne jamais écrire un livre pour de mauvaises raisons. Et ça, je pense que c'est un trait commun entre nous. On va jamais vers un sujet par facilité. Parce que souvent, on parle de l'inspiration. Je pense que c'est vrai que quand on a un certain temps, on a du métier. C'est-à-dire qu'on est capable, je pense, l'une et l'autre, d'écrire un roman. Mais ça ne sera pas forcément le roman qu'on veut écrire. Donc, on ne le fera pas. On ne va jamais écrire un roman pour de l'argent ou parce que ce serait une commande. On refuse beaucoup de projets, justement pour rester totalement libre dans notre création littéraire. Très souvent, par exemple, on s'en parle et je lui dis, tu me conseilles de dire non, d'accepter. Et très souvent, on incite l'autre à refuser tout ce qui pourrait nous empêcher l'une et l'autre de construire notre œuvre.
Et vous savez ce que vous êtes en tant qu'écrivain ? Je me suis posé la question quand vous avez parlé de ces critiques qui vous ont affecté. Est-ce qu'elles sont capables, ces critiques, de vous influencer ?
Plus aujourd'hui. J'ai 50 ans et maintenant j'ai 20 ans, plus de 20 ans dans l'édition. Et donc j'ai appris complètement à m'émanciper du jugement des autres. Mais quand vous arrivez... Oui, mais c'est vrai que quand j'ai été publiée, donc j'étais quand même jeune, je venais pas du tout de ce milieu-là, vous êtes fragile, et puis vous écrivez aussi avec ce que vous êtes, avec votre formation intellectuelle, votre éducation. Moi, je suis fille d'immigrés tunisiens, j'avais l'impression de pas avoir les codes, donc si un critique littéraire d'un grand journal disait que mon livre était mauvais, j'avais tendance à penser qu'il avait raison. Et je pense qu'on se construit en tant qu'écrivain aussi contre. Et ça, c'est pas forcément le succès qui vous conforte dans cette idée. C'est qu'à un moment, vous avez une conviction très forte. Vous avez le sentiment de construire qu'il y a une unité dans votre travail, dans votre pensée. Et vous parvenez, mais tardivement. Hein, moi, il y a que depuis quelques années, je pense ainsi. Mais pendant longtemps, je me suis sentie quand même écrasée par le jugement des autres.
Véronique ?
Mais en fait, on est dans un système depuis l'enfance qui perdure. C'est-à-dire, on va à l'école et on est classé, noté, récompensé, comparé, évalué tout le temps. Et ce système, on est grande quand même. Et ben, il continue. Alors, on est dans les listes ou on n'est pas dans les listes. On est dans les meilleures ventes
noté,
ou pas.
Hein, les livres sont notés dans certains journaux.
Les livres sont notés.
17 sur 20.
Voilà,
5 sur 20.
Une étoile, deux étoiles, un machin, tout ça. Et on est tout le temps. Et on est là et on attend comme un enfant. Je pense qu'il y a un sédiment qui reste en nous. C'est ce que disait, je ne vous aime pas. Mais en fait, au fond de nous, il y a toujours, est-ce qu'on va être reconnu, mais pas dans le sens célèbre, mais reconnu en tant que ce qu'on fait. Moi, la semaine dernière, j'ai cauchemardé qu'on m'avait totalement oublié, que mon nom était gommé. Et il y a ce truc de, je pense, on entretient en France ce système infantile, avec cette rentrée littéraire qui est très violente, c'est sauvage. Et c'est darwinien, les meilleurs resteront, quoi. Ceux qui ont, c'est la survie de l'espèce. Et moi,
Vous pensez vraiment que les meilleurs resteront ?
Non, mais c'est ce qui
se dit.
Quand on dit le meilleur livre, la meilleure actrice, le meilleur rôle, le meilleur... Mais ça veut dire quoi ?
Mais regardez, prenez l'exemple de Romain Gary. Romain Gary, il en a beaucoup souffert. Et à son niveau de talent, il avait eu toute la reconnaissance, il avait déjà eu le prix Goncourt. Il en a tellement souffert de l'étiquette, d'employer l'expression de Gombrowicz, de la gueule qu'on lui avait faite, qu'il s'est réinventé sous une autre identité, Émile Ajar, pour avoir
à nouveau le prix
Goncourt. À nouveau une consécration, une reconnaissance. Et rien ne lui faisait plus plaisir que quand il allait dans des dîners, il racontait que des critiques littéraires disaient « Ah, ce Émile Ajar, quel génie !» Mais d'un air moqueur, d'un air « Vous, vous êtes fini !» Et Émile Ajar, c'est la jeunesse, c'est le renouveau. Et il y a aussi ça. On vit aussi dans un milieu où, les milieux artistiques, où très vite vous êtes étiqueté. Or, pour rester libre, vous avez besoin de vous mettre en danger. Donc vous avez besoin d'avoir des amis écrivains qui vous portent, qui vous donnent confiance, qui vous confortent dans vos choix. Enfin, vous n'êtes pas seul. Par exemple, quand on change d'éditeur, c'est vertigineux. Ça fait peur. Donc, pouvoir en parler, de confronter ses choix, d'être mieux armé, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un métier très solitaire. Souvent, les gens me disent « Ah, j'aimerais bien écrire ». Je leur dis souvent « Mais est-ce que déjà, tu aimes la solitude ?» Parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on est très seul.
J'ai noté une différence entre vous. Me direz si j'ai raison ou tort. Lors de notre interview d'hier, vous disiez que vous aviez commencé à écrire très jeune, que vos premiers manuscrits ont été refusés. Quant à vous, Véronique, j'ai l'impression, si je lis votre biographie, que vous êtes arrivée, non pas par hasard, à l'écriture, mais en tout cas, il y a eu au départ, c'était le théâtre, puis d'autres chemins.
Alors, moi, c'était le théâtre. Donc, il y a beaucoup de pièces qu'on n'avait pas citées, mais que j'ai eu la chance d'avoir vues monter par des gens comme Jacques Lassalle au Festival d'Avignon, comme à la Comédie Française par Philippe Adrien. Moi, j'ai eu cette chance, non, mais parce que ça m'a beaucoup appris d'être montée par des grands metteurs en scène et des grands acteurs. Parce que les acteurs, qui étaient très bons, m'ont montrer que j'en disais toujours trop. Ça m'a appris à écrire aussi le théâtre, de les entendre. Et le théâtre m'a appris à écrire Bord de mer. C'est-à-dire, quand on m'a, Actes Sud Papier, qui éditait mon théâtre, m'a demandé d'écrire un roman, la même année, ils avaient demandé à Laurent Godet, qui lui aussi n'écrivait que du théâtre à l'époque, et qui a écrit Cri. Et je me suis dit, je vais leur montrer que je ne sais pas écrire de roman, je vais écrire un monologue. Donc c'était le monologue de bord de mer. Et le théâtre m'a aidée parce que je me suis dit, cette femme-là, comment elle parle ? C'est toujours la question qu'on se pose au théâtre. Comment ce personnage parle selon son époque, son sexe, son milieu, etc. Et c'est comme un diapason que vous mettriez à l'oreille. Et c'est vrai qu'on ne peut pas... c'est vraiment un fil qui est finalement accidenté mais cohérent.
Et désormais, cette écriture romanesque, elle l'emporte à vos...
Oui, parce que quand j'avais les enfants à la maison, j'écrivais des romans plus courts. Et je me disais un jour, je pourrais faire comme John Irving. Y mettre des années et y voyager et j'aurai le temps. Alors pour Bakita, j'ai emprunté à la banque parce que j'avais pas le temps. Mais grâce à Bakita, maintenant, j'ai le temps. Et ça, c'est quelque chose qui fait que votre écriture, elle évolue. Il y a une amplitude qui est différente parce que la liberté, il y a la liberté pour les femmes, mais c'est valable dans tous les milieux. Il y a des femmes qui vont se lancer en politique une fois que les enfants auront été élevés. C'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'améliorer, découvrir de nouveaux territoires, une nouvelle façon d'écrire, oser, que ce soit... Et ça, c'est ce qui fait la saveur de ce métier.
Aussi, d'être amie avec un auteur femme...
Oui, j'allais justement vous poser cette question-là.
Pourtant, parce que c'est quand même... le milieu de l'édition, ça tend à changer... Mais ça a longtemps été quand même un milieu très masculin, très misogyne. Le grand écrivain est un homme, pas une femme. Moi, je me souviens d'une rentrée littéraire chez Grasset où sur les 12 auteurs, j'étais la seule femme. C'est très compliqué. Par exemple, moi, j'écris souvent sur des sujets de société. Et je me souviens, par exemple, pour l'insouciance, où il y avait une grande partie qui se passait dans le monde de l'armée. Très souvent, j'avais des questions de journalistes qui me disaient « Pourquoi je vais avoir choisi un sujet masculin ?» Ah oui, non, mais en fait, je pense, pour moi, c'est pas un sujet masculin. Ça concerne autant dans la perception une femme qu'un homme. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de d'écrire dans une forme d'adversité pour s'imposer. Alors, l'expérience et l'âge aidant, c'est moins le cas. Mais moi, je me souviens, à mes débuts, c'était quand même assez compliqué. Et de pouvoir en parler avec une femme, quand parfois on était confronté à des situations désagréables ou... par exemple, moi, je me souviens quand j'avais été finaliste du Goncourt avec l'invention de nos vies, ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait un journal qui avait titré 4 finalistes pour le Goncourt, un auteur de premier roman, un auteur de polar, un grand écrivain et une dame. Et moi, c'était mon 10e livre.
Quelle horreur.
C'était sur le site de l'Obs. Et c'était mon 10e roman. Et je vais avoir une quarantaine d'années, une dame. Et alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Et pour la première fois, j'ai appelé un des journalistes de la rédaction parce que ça n'était pas signé, en disant, écoutez, c'est inadmissible. Je ne suis pas une dame, je suis un écrivain comme eux. Et un auteur de premier roman, vous l'appelez l'auteur de premier roman. Et moi, je suis la dame. Et en fait, ils ont fait pire. Ils ont mis 3 écrivains et une seule femme. Sous-entendu, si elle l'a, c'est parce qu'elle est une femme. Et c'est des petites humiliations, mais finalement, qui vous font mal. Et avec Véronique, par exemple, je sais que je peux évoquer ces sujets parce qu'elle me comprend, parce qu'elle a vécu des situations similaires. Et ça, c'est quand même difficile. Mais j'ai fait plein d'anecdotes comme ça. Moi, je me souviens d'un dossier sur les attentats du 11 septembre. Et il y avait eu que des hommes interviewés. Et pareil, bon, moi, j'insistais, j'avais dit aux journalistes, mais pardon, mais à la rédaction, mais pourquoi vous avez interviewé que des hommes? C'est quand même, les femmes n'ont rien à dire, les écrivains femmes n'ont rien à dire sur le 11 septembre. Et ils m'avaient dit, oh, on a voulu en interroger, mais elles n'ont pas répondu. Mais c'est en train de changer, ça tend à changer.
Véronique, votre regard sur ce thème-là ou...
Heureusement qu'on se serre les coudes, parce que moi, venant du théâtre, alors déjà, franchement, le mouvement MeToo n'arrive pas à percer dans le théâtre. Et je comprends les filles, parce que elles peuvent perdre le boulot, parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'on se dit, on va pas prendre l'emmerdeuse, on va prendre celle qui dit rien. Mais les témoignages, et moi, ce que j'ai vécu, c'est effrayant. C'est effrayant. Et alors après, à côté de ça, le milieu de l'édition m'apparaissait soft, mais c'est vrai que c'est il y a toujours ce rapport de ce rapport de séduction. C'est très étonnant à quel point les hommes de ma génération ont besoin d'être rassurés en passant par le mode de séduction. Et c'est très humiliant parce que bon, moi je me souviens par exemple quand j'étais dramaturge, je vais dans un endroit où on distribuait des bourses à l'écriture pour pouvoir écrire ma pièce et je raconte, voilà, alors je m'étais bien maquillée, bien préparée, tout ça, et puis le monsieur était derrière sa table, c'était le directeur d'un immense... immense société très connue, et je lui raconte ma pièce de théâtre, et il se lève, et il me saute dessus, il m'embrasse, moi je suis rentrée chez moi en pleurant, j'habitais en banlieue, j'habitais loin, mais je comprenais, je me disais, en fait, il ne m'a pas écoutée, en fait, je suis pas intéressante, ce que je dis, ça vaut rien, et aujourd'hui, on en parle, ce monsieur est un grand-père à la retraite, on en parle, et je m'aperçois que les filles, elles y allaient avec leur chien, avec leur bébé dans les bras, vous voyez, pour qu'on arrête de nous sauter dessus, ou que le chien se venge. Et donc, en fait, mais il y avait une sorte, on espère qu'il visait bien, il y avait une sorte d'omerta comme ça, et nous, on encaissait, et moi, je ne trouvais même pas ça anormal. Je ne me disais pas, ce monde patriarcal, c'est pas normal. Je me disais, quand je pleurais pas, je me disais, je me suis bien défendue, comme un soldat qui dirait même pas mort. Et puis, quand j'ai créé le Festival du Paris des Femmes avec Anne Rothenberg et Michel Fitoussi, je me suis dit, mais en fait, c'était pas normal. Pourquoi, moi, au Théâtre du Rond-Point, au lieu d'être sous-directrice, allez, disons, c'est Jean-Michel Ribes, le directeur, je suis affectée aux manuscrits, à la bibliothèque, à la revue. Pourquoi, dans les théâtres, je suis l'assistante à la mise en scène? Pourquoi on me dit toujours, ah, vous écrivez des rôles de femmes? Mais on dit jamais à un homme, vous écrivez des rôles d'hommes. Donc, j'arrivais avec le cuir déjà bien tanné, mais c'est vrai que, au début, je pensais que ce monde de l'édition, en fait, on avait le droit d'y vieillir, qu'on n'était pas dans l'image comme les actrices, eh bien, c'est faux.
Mais même un test, quand on demande à des écrivains de citer des auteurs qu'ils aiment, ils citeront rarement des femmes. Encore une fois, ça tend à changer. Je pense qu'on est dans un mouvement là de grands changements. Les nouvelles générations, ils ont vraiment conscience et ils ont envie d'être dans une société plus égalitaire. Mais il y a 20 ans, dans l'édition, si vous posiez la question à un homme, il n'aurait pas cité d'auteur femme.
Il nous reste 5 minutes parce qu'effectivement, oui, je suis désolé, mais il y a un avion à prendre. Et puis surtout, vous souhaitez rencontrer vos lecteurs et lectrices de façon plus intime autour des dédicaces. Donc, à moins le quart, on cesse notre conversation et la librairie Ombre Blanche vous attend. Voilà. La toute dernière question, justement, elle va vous concerner, nous concerner. On a évoqué le rapport aux éditeurs, rapidement, le rapport aux critiques et le rapport aux lecteurs et lectrices. Comment se passe-t-il ? Est-ce que ces gens-là, justement, eux, peuvent avoir une influence ? Est-ce que c'est agréable ? Ce commerce-là, est-il agréable ? Est-ce qu'il est déstabilisant parfois ?
Ah, moi, je trouve que c'est une relation exceptionnelle. D'ailleurs, moi, je ne crois pas les auteurs qui disent je pense jamais aux lecteurs, j'écris pas pour les lecteurs. C'est faux. On écrit aussi pour être lu. Et quand vous rencontrez un lecteur qui vous a compris, en fait, il y a une sorte d'intimité très profonde qui se crée, parce que parfois, vous écrivez aussi dans une forme d'inconscience. Vous n'êtes pas capable d'expliquer précisément pourquoi vous avez écrit des éléments. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui, en plus, parfois, avec lequel vous n'avez rien en commun, mais qui va être tellement touché par votre livre, qui va vous expliquer pour quelle raison ça l'a transformé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez miraculeux. Avant, par exemple, à mes débuts, je recevais beaucoup de courriers. Maintenant, les gens écrivent moins. Je le regrette parce que c'était très beau. Moi, j'ai des lettres de lecteurs. Moi, j'avais notamment un monsieur qui était très âgé et un jour, il a cessé de m'écrire. Alors, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis dit, mince, bon. Et il m'écrivait régulièrement à chaque publication. Il m'écrivait une lettre de 3 pages très détaillée. Et je trouve que la relation avec le lecteur, c'est une relation exceptionnelle puisqu'il... Bon, bah, si le lecteur n'aime pas, il va pas forcément venir vous parler. Et puis, de toute façon, nous, on lit pas les critiques sur Amazon ou ce genre de site. Ça nous fait du mal, surtout quand elles sont mauvaises.
Vous évitez soigneusement, oui.
Ouais, on évite, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on se protège. Mais la rencontre, moi, hier, par exemple, à la librairie, il y a une femme qui est venue me voir, elle avait tous mes livres. Et elle m'a dit, j'ai apporté que ceux que j'ai aimés, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup, peut-être un ou deux qu'elle n'avait pas aimés. Et elle m'a expliqué pourquoi elle aimait mon travail. Et vraiment, j'y pense encore aujourd'hui. Je me dis, c'est formidable, qu'est-ce qui a fait écho en elle ? Enfin, je ne la connais pas, mais ça m'a beaucoup touchée.
Parce que c'est comme ça. Il y a deux livres. Il y a le livre qu'on écrit et le livre qu'on lit. C'est pas le même. C'est toujours très troublant de savoir que le livre est dans l'intimité d'inconnus. Et justement, dans les salons du livre, dans les dédicaces en librairie, c'est l'occasion tout d'un coup d'être... C'est concret, le lecteur est concret, il est réel. Et quand on nous dit... moi, avec Bakita, j'ai vraiment des retours qui sont tellement bouleversants que je me dis, non, c'est pas moi, c'est le personnage de Bakita. Parce qu'il y a quelque chose qui est... C'est troublant et en même temps, c'est le don du livre, quoi. C'est magnifique que le livre, aujourd'hui, ait encore ce pouvoir d'être un transmetteur, d'être vivant comme ça, d'arriver dans le sac de quelqu'un et puis de l'accompagner, de le suivre, de le bouleverser. Et des fois, il m'arrive... Moi, je lis beaucoup, évidemment, et je lis le soir dans mon lit et je me dis « Oh, il y a peut-être des gens qui sont en train de... » Et ça, c'est un truc qui est... Oh, je me cacherais presque sous la couette, mais c'est dingue. C'est dingue.
Nous-mêmes, en tant qu'après, on est des lectrices aussi, avant tout. Et moi, j'adore quand je lis un livre et je me dis, mais ça trouve un écho très fort en moi. Et je me dis, elle parle de moi. Et il y a une sorte d'intimité qui se crée. Moi, je me souviens, j'adore l'écrivain américain Philip Roth, qui est décédé, oui, malheureusement. Mais je me revois quand j'allais il sortait un nouveau livre et j'allais en librairie pour l'acheter. Quand je lisais les premières pages, j'avais un sentiment de connexion et d'intimité extrêmement profonde. Et il y a qu'en tant que lecteur, enfin il y a qu'avec le lecteur, parce que c'est la rencontre avec un texte, avec un univers. D'ailleurs, c'est pas à chaque livre, hein, c'est jamais gagné. Mais donc ça reste le cœur de notre travail, ce qui nous donne envie de poursuivre malgré les difficultés, c'est toujours la rencontre avec le lecteur.
Merci, ce sont des très beaux mots de conclusion. Je vous conseille très vivement de découvrir La Décision avec son personnage Alma Revel et puis de suivre le parcours du petit Joseph dans Le Gosse. Merci beaucoup de votre attention et merci à vous deux.
Merci à vous.